enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Osez, à l'impératif, osez, avec un grand Z, être différent. Est-ce qu'on pourrait me rendre le son que j'avais, mon frère? Tu m'as touché quelque chose et le son a changé. Osez être différent. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, et chers amis internautes, tournez-vous vers celui qui regarde avec vous, dites-lui, ose être différent. Ose être différent. Quand je dis ose être différent, ça ne veut pas dire que tu dois venir dimanche prochain avec une crête bleue, avec un os dans le nez et avec un pantalon où on peut se tenir à trois dedans. Ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne aucunement. Mais ce n'est pas de cette différence que je vous parle. Merci Frédéric, tu iras au ciel. Bientôt on aura l'impression d'être en pleine indulgence. Hein? Romains 12, verset 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la traduction français courant, le même texte, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Jusque-là, la parole de Dieu. Paul exhorte les chrétiens de Rome. Et voyez-vous, je crois qu'il est parfois nécessaire, afin de mieux aborder, de mieux comprendre l'exhortation adressée, de resituer l'exhortation dans son contexte historique, dans son contexte social. La question que je me suis posée était la suivante. Si Paul devait réécrire une lettre à l'Église de France aujourd'hui ou d'Europe, écrirait-il autre chose que ce qu'il a déjà écrit aux Romains, alors eh bien qu'il s'adressait à eux? Changerait-il son discours aujourd'hui, ou alors sommes-nous en pleine actualité avec un discours qui est indémodable, qui a valeur eh bien d'être pour nous encore valable aujourd'hui? Premier point, contexte social de cette exhortation. Je vous rappelle que cette lettre est adressée aux Romains. Elle a été écrite par Paul aux environs de l'an 58, alors que lui était encore à Corinthe. En fait, il s'adresse à une église qu'il n'avait pas encore, au moment où il lui écrit, rencontrée. Mais il avait entendu beaucoup de choses au sujet de cette église et au sujet de ce qui se passait dans l'Empire romain, et en particulier à Rome. L'église de Rome, d'alors, était confrontée à une situation extrêmement difficile parce que c'est sous, permettez-moi l'expression, mais la dictature de l'empereur romain Néron que cette lettre sera écrite. À une église qui était une église souffrante. Néron, c'est le symbole même du tyran sanguinaire. Quand on veut parler d'un tyran fou et sanguinaire, eh bien on parle de Néron. Empereur romain de l'an 54 à 68. Pour vous donner quelques exemples de ce que le personnage pouvait faire, il tuera par exemple sa propre mère Agrippine. qui par ailleurs était également une mère qui couchait avec son fils. Il tuera le fils de l'empereur Claude simplement pour lui usurper et lui prendre le royaume. Il tuera ses plus proches, sa femme. En fait, il tuera tout ce qui pouvait représenter un quelconque danger. Il vivait plus que dans la peur. Et puis, pour couronner le tout, Néron, eh bien, est connu pour avoir incendié lui-même Rome en l'an 64 après Jésus-Christ. Et le bouc émissaire qu'il trouvera, eh bien, ce fut les chrétiens d'alors. Conséquence, on les mena dans les arènes. Ils furent dévorés, servirent, eh bien, de spectacle à la foule qui était là. Néron savait pousser le vice jusqu'à enduire les croyants de poids pour ensuite les utiliser comme torches vivantes dans les palais, dans les jardins de son palais où il recevait la foule qui faisait la fête. Et la foule fêtait pendant que les chrétiens brûlaient. Vous avez là un peu l'atmosphère dans laquelle l'église de Jésus-Christ se trouvait. D'ailleurs, c'est apparemment sous le règne de Néron, en 67 après Jésus-Christ, que l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, fut décapité, et cela à Rome. Voyez-vous, lorsqu'on remet les choses dans leur contexte historique, on en mesure également tout le poids. On en mesure toute l'importance. L'Église était confrontée à une situation terrible. Deuxième point, permettez-moi, eh bien, de vous décrire l'atmosphère morale dans laquelle évoluait l'Église à Rome. L'atmosphère morale, c'est extrêmement important. Il est important que vous saisissiez cela. Néron avait entraîné le peuple dans la décadence la plus profonde. Permettez-moi d'oser faire quelque chose, c'est eh bien de prendre quelques extraits. Mais ce sont des extraits qui tiennent compte d'une certaine réalité historique, mais qui sont eh bien retraduits dans un roman historique. Je voudrais simplement vous citer quelques extraits pour que vous sentiez l'atmosphère morale de Rome à l'époque. Cet extrait du livre Les Romains de Max Gallo, Néron, le règne de l'Antichrist. Lors des fêtes célébrées à Saturne, page 179, les rues de Rome étaient envahies par la foule. À chaque carrefour, sur de petites tables, les organisateurs de jeux, de hasard, faisaient rouler dés et osselets. Lors des Saturnales, on pouvait se livrer à des divertissements interdits sur la voie publique le restant de l'année. Ce n'était pourtant que cris, rire de femmes, poursuivis par des hommes, ivres, jeunes gens, qui s'offraient parés et parfumés comme des femmes. Excusez-moi un instant, je m'adresse à la traduction. Cher frère, je ne peux pas ralentir plus. Résume, s'il te plaît, le texte que tu as devant tes yeux, si possible, ou saute des étapes. Page 195. Les couples n'osaient plus sortir de nuit dans Rome, craignant d'être attaqués, les femmes violées et les hommes dépouillés. Page 265. Néron suggérait à ses invités de se présenter, accompagnés de jeunes gens beaux et talentueux, et quand la soirée devenait orgie, ils offraient leur corps musclé aux invités. Page 266. Néron demandait à Sporus de se coucher près de lui et l'affranchit dans un mouvement à l'anguille s'exécutait. Néron avait fait émasculer Sporus, prétendant le métamorphoser ainsi en femme. Il avait même voulu l'épouser. Il me semble que les temps ne changent pas. On continue à changer le sexe de certaines personnes avec des moyens plus perfectionnés. Page 374, je l'ai vu quelques jours plus tard. Les yeux baissés comme une jeune vierge timide sous ce voile de tissu orangé que portent les jeunes épouses lors de la cérémonie nuptiale. Il marchait aux quatre côtés de l'affranchi Pythagora vers les prêtres qui allaient célébrer leur union. Il, Néron, était la jeune femme. Elton John ne s'est-il pas offert en spectacle devant toutes les télévisions du monde en se mariant avec son ami? Néron a fait des émules. Page 390. Après l'incendie de Rome, donc la persécution des chrétiens, voilà quel genre de jeu se livrait Néron. C'était là le spectacle imaginé pour surprendre et satisfaire la foule, lui faire rendre grâce à Néron, de le venger par ses jeux inédits. Des hommes et des femmes tenant leurs enfants, tous enveloppés dans des peaux d'ours ou de fauves teintées de sang, afin que les chiens sauvages lâchés dans l'arène soient attirés, leur sautent à la gorge, leur arrachent ces déguisements bestiaux avant de les mettre en pièces. Et j'ai vu ces chrétiens, nus, ces femmes qui tentaient de protéger leur nouveau-né que les chiens lacéraient. Chaque spectacle marquait un nouveau degré de raffinement, de supplice. Il y eut un soir où le jour baissait, où l'on mit le feu à ces crucifiés qui avaient été préalablement enduits de poids afin que les flammes qui dévoraient leur corps éclairent les jardins de Néron où la plèbe, c'est-à-dire la foule, avait été admise. Jeu, sexe, violence, débauche, homosexualité, gloutonnerie, irrespect du prochain, irrespect de la vie, irrespect des commandements divins, faux Dieu. Voilà en partie à quoi ressemblait Rome. Lorsque Paul parle aux Romains, dans son premier chapitre, écoutez ce qu'il leur dit. Néron se faisait passer pour un poète, pour un philosophe. Les philosophes grecs avaient passablement influencé également la Rome d'alors. Et voilà ce que Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, Romains 1, 22. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Un peu plus loin, c'est pourquoi, écoutez, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Paul aux Romains, en l'an 58. Paul aux Romains. Ma question ce matin, s'il nous réécrivait, que pensez-vous qu'il nous écrirait? Laissez-moi oser un parallèle avec notre époque aujourd'hui. Et ce sera mon troisième point. Atmosphère morale aujourd'hui. La sexualité, par exemple. Notre société est marquée par l'influence d'une minorité, un groupe minoritaire qui influence un groupe majoritaire. Rome avait ses défilés, nous l'avons lu. Nous, on a les nôtres. Ah, carnaval, c'est pas grave. Vous n'avez jamais assisté à un vrai carnaval. J'étais en Guyane quand un carnaval brésilien a défilé. C'était le sexe exposé sous toutes ses formes et vraiment l'instigation à la débauche. On dansait quasiment nu sur les chars. Ah, je n'étais pas allé pour voir cela. J'allais faire une réunion et à un croisement, il passait. Parce que je vois déjà Dominique qui... Ta 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 ta. Ta 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 ta. Quand ses yeux me touchent ici, c'est que je suis en danger. Pendant le carnaval, ne fait-on pas tout ce qui est interdit le restant de l'année? Ne se livre-t-on pas à la débauche? C'est l'objectif. Soudain, il n'y a plus homme ni femme. Chacun fait ce qu'il veut sous le couvert de son masque. Ah, Mulhouse, c'est gentil, peut-être. Mais je vous assure qu'il y a des endroits en Europe où c'est bien différent. Il n'y a plus de règles à ce moment-là. Ce qui était interdit, on le montre. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons aujourd'hui régulièrement des défilés et j'en parle ouvertement. Je sais qu'on me regarde. Mais on a des défilés qu'on appelle les gay pride. En tête, nos hommes, certains de nos hommes politiques. Avez-vous déjà vu les chars de la gay pride? On nous demande le respect. Nous respecte-t-on? On nous fait violence au travers de ce qu'on nous montre. C'est indécent. Oh, je ne sais pas si la Rome d'alors avait grand-chose à envier à nous aujourd'hui, mais bientôt je me demande si nous aurons encore quelque chose à envier à la Rome d'alors. Et ceci de plus en plus. J'étais dans le train l'autre jour et je me souvenais que à Paris a eu lieu une marche pour Jésus, 10 000 personnes dans les rues. Vous en avez entendu parler à la télévision, vous? Rien. Pas une image. Mais lorsque une trentaine ou une cinquantaine d'hommes veulent faire un défilé à Moscou, qu'on les rejette, toutes les télés du monde en parlent. Il me semble qu'il y a deux poids et deux mesures. Aujourd'hui, on en arrive même au stade où certains partis politiques nous annoncent déjà d'avance que si ils devaient être au gouvernement, ils légaliseront et le mariage homosexuel et l'adoption des enfants par des homosexuels. Permettez-moi de vous faire une réflexion. On parle toujours du droit à l'enfant. Et quand j'écoute, j'entends toujours « nous avons le droit également d'avoir des enfants ». Pourrions-nous ce matin changer le discours et peut-être nous poser les questions « mais c'est quoi les droits de l'enfant ?» J'estime que l'enfant, lui, a le droit d'avoir un papa et une maman. J'estime qu'on doit parler du droit de l'enfant avant tout le reste parce que c'est lui le premier concerné et c'est lui qui va devoir grandir. J'ai des enfants, vous avez des enfants. Nous savons que l'identité de l'enfant se forme au travers de la mère et du père. Quelle identité aura un enfant qui, lui, ne pourra pas choisir? Alors que j'étais dans le train, j'avais acheté un journal et c'était le Figaro. Et je tombais là sur un sondage. Un sondage sur la sexualité des Français. C'est du 14 mars 2007, mercredi dernier. Alors, voyez-vous, à ma grande surprise quand même, je me suis rendu compte que finalement, quand on parle par exemple de l'homosexualité en France, on a bientôt l'impression qu'il y a 65 millions d'homosexuels. Mais ce sondage qui a été fait sur un échantillon de 12 364 Français après qu'ils aient été interrogés, on dit, pour 4% d'entre eux, seulement 4%, avoir eu une relation avec une personne du même sexe, ce qui ne fait pas d'eux forcément un homosexuel. C'est 4% pour les femmes et 4,1% pour les hommes. C'est donc bien une minorité qui influence tout un peuple, mais une minorité qui est dans le showbiz, que les jeunes prennent en exemple, une minorité qui tient les médias et une minorité qui occupe des postes politiques. L'apôtre Paul réagit et ce matin, je réagis. Nous n'avons pas, en tant qu'Église de Jésus-Christ, besoin d'adhérer à toutes ces choses. Au contraire, je voudrais préciser que lorsque je parle de l'homosexualité, j'en parle avec non pas passion, mais compassion. Avec beaucoup de respect, si quelqu'un au milieu de nous devait avoir connu ces choses ou encore être tenu, c'est avec beaucoup de respect que j'en parle. Je ne suis pas homophobe, non. Je sais et j'ai suffisamment entendu d'homosexuels qui sont venus et que je connais aujourd'hui comme des hommes libres, me confesser parfois les drames qu'ils ont vécus, viols et autres, pour ne pas aborder cela sans prendre, eh bien, beaucoup de distance entre ce côté réactionnel que l'on peut avoir quand on en parle et la compassion qui peut s'en dégager lorsqu'on comprend. Ceci dit, je ne me laisserai pas interdire le fait de parler librement. Aujourd'hui, il me semble que la liberté d'expression est menacée. Lorsqu'on commence à parler ouvertement de cette manière-là, en France, on est passible d'avoir des procès. On nous demande le respect. Je demande le respect mutuel. Je demande qu'il y ait respect mutuel. Parce que c'est essentiel, parce que c'est important. Je crois qu'il y a une voie meilleure que le communautarisme. Je crois qu'il y a une voie meilleure que d'enfermer des hommes et des femmes dans une logique dans laquelle ils ne sont pas heureux, parce qu'ils le disent très souvent. La minorité de ceux qui s'expriment, qui disent « on s'éclate », n'est pas représentative de ce qu'ils vivent en réalité. J'ai vu des homosexuels et j'ai eu des entretiens où ils me disaient « vous savez, ce qu'ils disent à la télé, c'est pas ce que nous vivons. Moi, je suis pas heureux. Moi, je suis pas libre. Moi, je pleure de ma situation. Alors, si quelqu'un peut m'aider, aidez-moi. » Je crois qu'il y a donc une autre voie, celle du secours. Le sondage fait un autre constat. La femme aujourd'hui connaît entre 4 et 5 hommes dans sa vie, alors que les hommes évoquent près de 12 partenaires au cours de leur existence. Seuls 10,9% d'entre elles auraient plus de 10 partenaires contre 35,4% des hommes. Il me semble que la fidélité n'est plus une grande référence. Moi, j'aimerais ce matin encourager tous ceux qui aiment Jésus à développer une autre manière de voir les choses. J'aimerais dire ce matin aux jeunes gens, ayez le courage, osez être différents. Osez être différent. Nous assistons à un vrai matraquage médiatique dans lequel le message sous-jacent est toujours « c'est pas grave, c'est comme ça, c'est ça la vie, éclate-toi ». J'aimerais te dire que c'est pas ça la vie. Tu vas pas t'éclater, tu vas imploser. Tu vas pas être heureux, tu vas souffrir. Je pourrais continuer maintenant avec la violence. Est-il nécessaire d'en parler de la violence? Il y avait la violence à Rome. Aujourd'hui, Rome avait ses arènes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez que nous, on a aussi nos arènes privées? La télévision. Chaque jour, des violences. Dans les films, abreuvés d'hémoglobine. Écoutez, on est au stade où aujourd'hui, les gens passent du film violent qu'ils ont vu aux informations dans lesquelles on leur montre une explosion à Bagdad avec des corps déchiquetés. Ils ne réagissent plus. On ne réagit plus. Comme si la conscience avait été complètement aseptisée. Comme si la conscience était endormie. On voit des horreurs et on nous montre des horreurs en direct à la télévision. Et on regarde ça comme un film. Mes amis, la violence du temps de Néron, on ne sortait plus dans les rues. Il me semble que dans nos grandes villes de France, on ne sort plus de trop non plus. Sortez à Mulhouse, vous verrez. Les jeux, on pourrait parler des jeux. Le peuple veut du pain et des jeux. En d'autres mots, du travail et de l'amusement. Donnons-leur du pain. Dans les arènes, on leur jetait du pain. On jetait du pain à la foule, du pain et des jeux. Bien aujourd'hui, des jeux, on en a autant que vous voulez. L'autre jour, je rentre dans un petit bistrot pour boire un café avec mon gendre. J'aime parfois rentrer dans les petits bistrots. Il y a de l'ambiance. Et puis, vous avez toujours l'occasion de un moment donné ou une autre, de témoigner. Je bois un petit café avec lui et tout d'un coup vient un joueur. Mais alors, un joueur de chez joueur. C'était un gratteur. Écoutez, il était tellement nerveux qu'il transpirait. Il était au bord du comptoir. Il dit, encore une, il payait. Encore une, il payait. Attendez, moi je suis resté là un quart d'heure, 20 minutes. Il a gratté un quart d'heure, 20 minutes. Moi je sais pas combien il a dépensé. Qui veut gagner des millions ce matin? Ça vous dit quelque chose? On occupe les gens. Mais en même temps, les influences, on les plonge de plus en plus profond dans l'immoralité. Ce matin, permettez-moi de vous rappeler ce que Paul dira. Et c'est mon quatrième point. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà le mot d'ordre de l'Église d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai pris la définition. Conformer, rendre conforme, semblable au modèle, conformer son attitude à celle des autres, devenir conforme, son attitude. Est-ce que les modes ne sont pas là, chers amis, pour vous conformer? Il y a les modes et les soldes. Au moment des soldes, on achète tous la même chose parce que c'est pas cher. Bon, ça c'est autre chose. Mais la mode. Il semblerait que la mode à venir cette année, c'est à nouveau les robes qui ne commencent jamais, qui s'arrêtent tout de suite. Bien, vous allez voir qu'il y aura plein de robes comme ça. C'est même plus des robes, ils mettent plus que l'ourlet. Puis la robe, ils l'ont dans l'armoire pour la prochaine mode. Les modes. Je m'adresse là aux jeunes, je suis pas contre la mode. Ce n'est pas un signe de spiritualité que de ressembler à Napoléon. Mais j'aimerais vous dire, soyez suffisamment intelligents pour pas vous faire happer par cela. Ne vous laissez pas happer. Vous pouvez être beau, jeune, regardez le papa Jean comme il est jeune et beau. Ne vous laissez pas prendre, ne vous conformez pas. Ah oui, mais pasteur, si je mets pas un taille basse avec un string, alors je suis pas à la mode. Moi, j'aimerais vous dire, la mode vous soumet à une dictature cherchant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi à cette phrase. Je suis tellement content de ma phrase que je vais vous la lire. De temps en temps, je réfléchis quand même, hein. Elle vous soumet à la dictature de la mode, cherchant à exposer vos corps comme des produits à consommer et à convoiter. Résistez. 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 Paul dit aux Romains, résistez. Résistez à l'atmosphère détestable qui est à Rome. Résistez, résistez à la débauche. Résistez à l'adultère. Résistez à toutes ces choses qui sont en train de vous envahir. Église de Rome, résiste. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, ne pas coucher avant le mariage, c'est presque être un demeuré. Un jour, je le disais à quelqu'un, il me dit, mais monsieur, avant d'acheter une voiture, vous l'essayez également ? J'ai pas trop vu le parallèle entre ma femme et la voiture. Parce qu'on n'essaye pas sa femme. On l'aime. Et parce qu'on l'aime, on la prend comme elle est. J'ai rien dit, c'est vous qui interprétez manifestement. Hein. Prenez les relations hétérosexuelles aujourd'hui. C'est presque passé pour un intolérant. Monsieur, vous faites de la discrimination. Je ne fais aucune discrimination. Mais le modèle que Dieu nous a donné, c'est un homme, une femme. Et pour preuve que c'est le seul modèle qu'il soutient, ils peuvent procréer. Je sais que les jeunes qui sont ici et ailleurs, et ceux qui nous regardent, vous êtes soumis à des pressions terribles. On vous encourage à cela. Il y a des phénomènes de groupe qui vous poussent à cela. On a honte de dire, mais non, je suis encore vierge. On a honte, c'est une honte aujourd'hui. Il y a un siècle, la honte, c'était le contraire. Mais aujourd'hui, on a inversé la tendance. C'est une honte. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, relève ta tête. Sois fier. Sois fier d'être semblable à ton modèle. Ne marche plus comme ça. Marche comme ça. J'ai fréquenté pendant 4 ans Dominique. Eh bien, par la grâce de Dieu, je peux dire que nous n'avons jamais eu de relation. Je ne vais pas vous dire que c'était facile. Les hormones me couraient dans les cheveux et la tête partout. Mais pas seulement chez moi. Si vous aviez vu chez elle. Résister, c'est être prêt à lutter et à se battre. C'est ça, résister. Résister a coûté cher à Paul, ça lui a valu sa tête. Et aujourd'hui, résister, ça vous vaut peut-être un jour un procès. Résister, ça vous vaudra peut-être le rejet de la société dans laquelle vous êtes. Résister, ça vous vaudra peut-être d'être traité d'intégriste, de fondamentaliste et de je ne sais quoi encore. Mais Église de Jésus, conforme-toi à ton modèle. Conforme-toi à ton modèle. Ne te laisse pas enfermer. Et là, j'aimerais dire quelque chose d'extrêmement important. J'y ai aussi réfléchi et je vais vous le lire. Ne te laisse pas enfermer par les gens bien pensants dans tes quatre murs, comme si ton message ne s'adressait pas à tes contemporains. Ose faire entendre ta voix, ose être différent. Le monde dans lequel nous vivons est en train de dire « la foi, c'est quelque chose de privé ». La foi, c'est pour soi à la maison. La foi, c'est pour les quatre murs de l'église. Moi, j'aimerais te dire que la foi nous a été donnée pour qu'elle soit proclamée. Elle sera reçue ou non, mais ils auront entendu. L'église a un message dans la société d'aujourd'hui. Tu as un message à donner. Nous ne sommes pas simplement là des numéros de sécurité sociale qui subissons. Nous avons un message, frères, sœurs. Où serons-nous le sel de la terre et la lumière du monde s'il n'y a pas de différence? Osez être différent, non pas pour être différent, mais parce que nous voulons être conformes à quelqu'un d'autre, c'est à Jésus. Maintenant, écoutez bien. Être différent, ne pas se conformer au monde, ne signifie pas ne plus vivre dans le monde. Ne signifie pas non plus ne pas vivre dans la société dans laquelle nous sommes. Ne signifie pas rester simplement derrière nos murs. Non, non. Non, au contraire. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelé à briller où? Dans le monde. Moi, je ne vous encourage pas à vous retirer de tout ce que vous faites. Ah, mais pasteur, je fais partie d'un club de plongée. Bon, c'est peut-être pas le modèle idéal. Parce que sous l'eau, pour témoigner, c'est difficile, hein. Allez, je fais partie d'un club de basket. Eh ben, reste dans ton club. S'ils jouent le dimanche, tu viens au culte. Mais sinon, reste. Reste avec eux. Reste avec tes voisins. Reste avec tes copines, tes amis. Ne va pas dans les lieux de perdition où ils vont. Mais toi, quand tu peux, sois avec eux. Tu as quelque chose à leur dire. Tu as quelque chose à leur donner. Moi, l'autre jour, j'étais dans le train. Je rentrais de Grenoble. J'arrive à la gare. J'ai ma valise. Un monsieur s'arrête. Il me dit « Saratour ». Je dis « Oui ». Il me dit « Ça, c'est Strasbourg ». Je dis « Oui, vous connaissez ». Il dit « Je viens de Strasbourg ». Je dis « Très bien ». Il me dit « Vous faites le voyage ?» Je dis « Oui, on pourrait le faire ensemble ». Oh yes. Et puis on s'est mis dans ces petits compartiments où on est seul. Et puis... le voyage se déroule, j'avais 6 heures, j'avais le temps, hein. Et au bout d'un moment, il me dit, je suis le responsable de la communauté israélite dans la région de Strasbourg. Il dit, mais c'est merveilleux. Oh là là. Je me disais, si vous saviez. Et nous avons passé 6 heures ensemble. Il m'a appris des choses et j'ai pu lui parler du Seigneur. Il me dit, votre père vous a bien éduqué, hein, vous faites bien passer le message. C'est beau quand on est bientôt grand-père de voir quelqu'un faire référence encore à son père. Ça a été un moment extraordinaire. Une dame arrive. Non, c'est plutôt nous qui sommes arrivés après chez une dame. Elle était déjà assise. Et au bout d'une demi-heure, elle entendait notre discussion, je voyais qu'elle nous regardait. Je dis, vous savez, lui, monsieur est juif et moi je suis pasteur. Elle dit, ah bon? Et à nouveau, on a pu parler à cette dame. Le sel de la terre. La joie de vivre. Tu as quelque chose à dire à tes amis, à tes collègues de travail. Jésus n'a pas dit, retirez-vous. Enfermez-vous. Ne vivez plus qu'entre vous. Cultivez vos salades, vos carottes, vos radis. Vendez la farine de temps en temps. Voyez ce que je veux dire. Non, non. Il dit aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Nous respectons nos dirigeants et nous prions pour eux. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Je voudrais vous lire un texte d'un père de l'Église. Joseph, tu ne l'as pas, parce que je l'ai trouvé hier soir, mais si tu peux donner simplement un résumé de ce que je vais dire, me donnez-vous encore 10 minutes. Qui me donne 10 minutes? Les autres, bon, vous avez voté par procuration. Épître à Diognète, cet extrait du livre « Les 100 pères apostoliques, foi vivante, édition du Cerf ». Écoutez bien ce qu'il est dit là, et j'ai beaucoup aimé cela, ça vous aidera à comprendre ce que c'est être dans le monde, mais plus du monde. Le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui, mais il pourra perdre sa vie pour lui. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent, nous les Alsaciens. Par exemple, on mange la choucroute, on boit une bière de temps en temps. De temps en temps. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, écoutez bien cette image, elle est fantastique. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps. Comme les chrétiens habitent dans le monde, mais ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre sans avoir reçu de tort, parce qu'elle l'empêche de jouir de ses plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens qui ne lui font aucun tort parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, et ses membres, comme les chrétiens, aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, c'est elle pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde immortel. L'âme habite une tente mortelle, ainsi les chrétiens campent dans le corruptible en attendant l'incorruptibilité céleste. Quel merveilleux texte! Quel merveilleux texte! Il y a de quoi méditer longtemps sur des écrits comme ceux-là. Maintenant, Daniel avait eu le courage de ne pas se conformer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Écoutez, il dira, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mon frère, ma sœur, ose être différent. Ose te conformer, non pas au monde, mais à la parole, tout en étant dans le monde et un témoin pour ce monde. Et on verra au bout d'un moment que tu te portes bien mieux que ce monde. Et là, tu deviens la lumière. Daniel et ses amis devinrent une lumière par la différence. Devinrent une lumière parce qu'ils se portaient mieux. J'aimerais dire à tous les jeunes gens qui sont là, restez fidèles à ce que Dieu vous demande. Et on sera obligé de reconnaître qu'il y a là une génération de jeunes gens qui est capable d'être sérieux, qui est capable de travailler, qui n'a pas besoin de la drogue, qui n'a pas besoin de l'alcool, qui n'a pas besoin de relations sexuelles constantes, qui est capable d'être fidèle, qui est capable de construire des familles solides, des couples solides, d'avoir des enfants, qui est capable de redonner un tissu social, qui donne de la tenue, comme l'arbre a besoin de racines profondes, la société a besoin de racines profondes, a besoin d'hommes et de femmes de valeurs profondes. On le reconnaîtra, et j'ose croire un jour, que comme ça se fait déjà dans certains pays, des hommes politiques viennent dans les églises pour se renseigner et demander quel est votre secret. Dites-nous comment faire. J'aimerais vous dire qu'il y a déjà plusieurs pays au monde où cela a lieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je ne suis pas appelé à faire de la politique. Je suis appelé à prêcher l'évangile. Mais d'autres sont peut-être appelés à le faire et peuvent être inspirés par le modèle de l'Écriture. Terminons. Comment ne pas se conformer ? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Écoutez bien. Le renouvellement de l'intelligence est essentiel pour que vous discerniez la volonté de Dieu. Le terme grec traduit par transformer est métamorphoste et il signifie en français métamorphose. Qu'est-ce qu'une métamorphose ? J'ai repris mon dictionnaire. Changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet n'est plus reconnaissable. Waouh ! Soyez métamorphosés dans votre intelligence au stade où ceux qui vous ont connu avant votre rencontre avec Christ ne puissent pas reconnaître l'homme ou la femme que vous êtes devenu. Il y a quelques jours de cela, j'avais eu ce jeune couple qui était venu. Et j'avais vu Frédéric, entre autres, venir. En peu de temps, Jésus a fait une œuvre dans cet homme. J'avais du mal à le reconnaître. Lorsque Jésus vient dans une vie, mon frère, ma sœur, il dit lui-même à Nicodème, il faut que tu naisses de un autre homme. Une autre femme, une autre manière de penser, une autre manière de vivre. J'ai eu 6 enfants. Chaque enfant était différent et ne ressemblait pas au précédent. Lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Voici, dit Paul, les choses anciennes sont passées. L'adultère dans lequel tu vivais, la pornographie qui te tenait, la jalousie, l'argent. L'argent, vous savez, certains sont nés avec les doigts comme ça. Ils ont failli tuer leur maman en emmenant tout ce qui était sur le passage. Quelqu'un m'a dit un jour, un homme a failli se noyer à la piscine. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au lieu de nager comme ça, il nageait comme ça. Quel drame ! Faites attention. C'était peut-être ce que vous étiez, il y a peut-être ce matin, un joueur de tiercé invétéré qui a dépensé l'argent de tout le foyer, qui a ruiné sa famille. Mais il est venu à Jésus. Il a été renouvelé dans l'esprit de son intelligence et maintenant il ne mise plus que sur un seul cheval. C'est le cheval blanc de l'Apocalypse sur lequel Jésus est, vient bientôt. Waouh ! Et là, je peux te dire, tu es gagnant à chaque coup. Une nouvelle créature, tu trompais ta femme. Maintenant ta femme te regarde et c'est un homme fidèle. J'ai chaque fois des yeux qui me touchent là. Eh bien ma chérie, oui, depuis 22 ans. 23 ans, hein, bon, depuis 23 ans. Et je suis parti pour tout le restant. Hello, est-ce que ça vous emballe pas? De nouvelles personnes, une société dans laquelle des hommes et des femmes de valeur. On refuse le mensonge. Y a-t-il des chefs d'entreprise ? Peut-être qu'avant, on... Allez, un peu de blague. Je suis certain, c'est quasiment l'Afrique tellement il y en a, hein. Toujours par-dessous. On paye sous la table. Une nouvelle intelligence. Je ne ferai plus rien de caché. Je serai honnête envers la société dans laquelle je suis. Je serai honnête envers l'État. Je paierai ce que je dois payer. Une nouvelle nature. Frères et sœurs, et la clé de ce changement, c'est l'intelligence. Le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des sentiments, des actes d'une personne, c'est là que cela change. Ça fait partie de cette nouvelle créature que tu es devenue. À fur et à mesure que tu es transformé, un, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, tu deviens ce rayon de lumière. Là où tu es, ne vous conformez pas. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Laissez la parole vous pénétrer. Conclusion. Osez être différent, comme Jésus, notre modèle, a osé être différent. Osez être différent, comme lui a été différent dans le siècle où il était. Osez être différent, comme beaucoup de croyants ont été différents et ont donné leur vie, même dans les arènes. Osez être différent. Regarde ton voisin maintenant, dis-lui, on va devenir différent. On va devenir différent. On va changer. Grand-maman Kougloupf. Ah, c'est déjà old, dit grand-maman Kougloupf, on a naillé. On te pêche à naillé. Une nouvelle créature. Pour terminer, en conclusion, et pour moi ce n'est pas sans importance ce que je vous dis là, au contraire. Il est dit, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. En d'autres mots, en étant renouvelé dans votre intelligence, vous pourrez aussi choisir, non pas selon les intérêts de votre chair, mais selon les intérêts de la parole. Et là j'enfonce peut-être un clou. Nous sommes face à une échéance importante dans ce pays, c'est les élections présidentielles. Je ne vous dirai pas qui vous devez voter ou qui je vote, ça n'a aucune importance. Ce que je voudrais, c'est que face à cette échéance, nous ne votons pas selon nos intérêts, mais selon ce que la parole nous dit. Un programme politique qui propose d'emblée la légalisation d'union entre gens de même sexe n'est pas biblique. Je le dis, chacun doit gérer lui-même. Ceci dit, vous avez devant vous une grande échéance, priez pour cela. Deuxièmement, vous avez le droit d'exprimer votre opinion, c'est une liberté et un avantage que nous avons encore en Europe. Faites-le. Troisièmement, choisissez quelqu'un dont le programme honorera autant que possible nos valeurs. Que le Seigneur nous aide. J'ai pour cela, avec notre frère Roger, adressé 4 questions au présidentiable. Les questions partent demain. Nous attendrons leurs réponses. Je vous donnerai les réponses de chaque candidat. Nous les publierons également sur notre site internet. Voilà le contenu des questions. Quelle est votre position à l'égard des églises évangéliques qui connaissent une croissance importante? Que pensez-vous de la nécessité de donner à ces églises un véritable statut permettant une représentation nationale telle que cela a été fait pour l'islam? Deuxième point, quel est le modèle familial que vous souhaitez encourager? Troisième point, quelle est votre position face aux pressions exercées par certains groupes homosexuels en faveur du mariage et de l'adoption d'enfants? Quatrième point, quelle est votre position sur Israël dans le cadre du conflit israélo-palestinien et plus généralement dans le cadre du Moyen-Orient? il y aurait eu mille et une autres questions sur la répartition des richesses, sur la répartition des biens, etc. Ils en parlent suffisamment. Il me semble que ces questions-là, eh bien, en tout cas pour la première, pour la seconde, et d'ailleurs également pour la troisième, ainsi que pour la position à l'égard d'Israël, est importante pour nous. Et je veux te remercier parce que tu as également donné à l'Église un message pour la société dans laquelle elle vit. Je te remercie parce que tu ne nous as pas appelés à être indifférents au monde dans lequel nous sommes, mais tu nous as appelés à être la lumière, tu nous as appelés à être le sel de la terre, tu nous as appelés, Seigneur, également à nous rappeler que le Créateur a en toute chose établi des règles. Si un peuple respecte la parole que l'Éternel a établie, il s'en portera bien et sera heureux. Nous voulons le bonheur de notre pays, nous voulons bénir la France, nous voulons bénir, Seigneur, tous nos responsables politiques, nous voulons bénir les responsables des villes et des villages, nous voulons bénir, Seigneur, également les responsables des pays voisins, nous voulons prier pour l'Europe dans laquelle nous sommes, et nous voulons te demander, eh bien, d'avoir de l'intégrité, de marcher selon tes voies et de glorifier ton nom, Seigneur, en traduisant l'Évangile par des actes concrets. Gloire te soit rendue. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.